Je voudrais d'abord remercier donc les organisateurs pour m'avoir invité pour donc partager avec vous un petit peu les travaux que j'avais faits il y a quelques années à Lyon et que je continue à faire actuellement aux États-Unis. Alors, je vais vous parler des problèmes de franchissement de la barrière d'espèces et comme modèle, j'utilise un lantivirus qui est le lantivirus de la chèvre, le KEV. Alors, très rapidement, voici représenter la structure de la particule virale de l'antivirus. C'est des virus ARN qui sont enveloppés. La particule virale est enveloppée par des glycoprotéines d'enveloppe. Et c'est ces glycoprotéines d'enveloppe qui reconnaissent des récepteurs sur la surface des cellules pour initier l'infection. Donc, la structure de tous les lantivirus est similaire. Le virus de l'arthrite et de l'encéphalite de la chèvre ressemble au VIH de l'homme. Alors, le cycle lantiviral est initié par l'attachement donc entre la particule virale et les récepteurs qui sont à la surface de la cellule pour rentrer. Et puis, donc, le génome qui est un ARN est reverse transcrit en un ADN double brin qui est intégré dans le génome de la cellule hôte d'une manière irréversible. Et c'est là, c'est la raison pour laquelle il persiste, il donne des infections persistantes le restant de la vie de l'hôte. Donc, après, ce génome, il est exprimé pour donner de nouvelles particules virales qui vont sortir de la cellule et aller infecter d'autres cellules et d'autres organismes. Alors, actuellement, pour les lantivirus, on en connaît plusieurs. Donc, on en connaît le VIH 1 et 2 qui sont chez l'homme, les SIV qui sont chez les singes, virus de l'immunodéficience de simienne, le virus de l'immunodéficience des chats, ou fait l'idée, et des félins sauvages, les PIV. Nous avons le virus de l'immunodéficience bovine, puis trois autres lantivirus qui sont donc celui du cheval, le IAV, le virus de l'anémie infectieuse du cheval, et puis le virus Vishnamaidi du mouton, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'antivirus de la chèvre. Alors, il est maintenant clairement établi que l'émergence du VIH chez l'homme résulte de passage interespèce, de franchissement de la barrière d'espèce, de l'antivirus qui était résident chez les singes pour venir coloniser l'espèce humaine. Donc, il est clairement établi que le VIH1 a son origine l'antivirus VIS de chimpanzé et le VIH2 a son origine le VIS du Soutimangabé. Donc, il y a eu deux franchissements de la barrière d'espèces qui sont réussis et qui ont donné donc le virus du sida chez l'homme. Alors, à la vue de ce franchissement de la barrière d'espèces, l'objectif était de créer un modèle animal qui permettrait d'évaluer comment ces franchissements de la barrière d'espèces ont lieu et comment les virus s'adaptent chez le nouvel hôte et quelles sont les propriétés de ces virus. Alors, pour cela, donc, nous avons développé des modèles d'études in vitro sur les cultures de cellules. Les modèles in vivo qui concernent des infections expérimentales et de la recherche de virus qui ont réussi à franchir la barrière d'espèces d'une manière naturelle. Alors, en ce qui concerne les études in vitro, donc, on va voir les infections. J'ai une diapo qui a sauté, mais c'est pas grave. Donc sur les études in vitro, on va voir si les cellules sont permissives au virus, c'est-à-dire si le virus est capable de rentrer dans la cellule. S'il est capable de rentrer dans la cellule, est-ce qu'il est capable de se répliquer et produire de nouvelles particules virales? Ou s'il n'est pas capable, à quel niveau se situe la restriction à l'infection? Et le dernier point, est-ce que cette restriction peut être contournée? Donc, en ce qui concerne maintenant les études in vivo, donc on réalise des infections expérimentales chez les animaux dont les cellules sont permissives, et on suit donc les propriétés de l'infection. Est-ce que ça va donner une infection persistante, ou bien il y aura donc une réaction de l'hôte à l'infection pour contrôler l'infection? Quelles sont les propriétés de ce contrôle? On va étudier aussi les propriétés du virus au cours de son adaptation chez le nouvel hôte. Est-ce qu'il y a des modifications génétiques du virus? Et puis, donc, enfin, on recherche, maintenant qu'on a développé les outils, les franchissements de la barrière d'espèce naturelle donc, chez les animaux qui sont en contact avec les chèvres infectées. Alors, pourquoi faire ce travail? Parce que ça permettrait tout d'abord de mieux évaluer les risques d'occurrence d'un franchissement de la barrière d'espèce. Si on l'avait su, donc il y a à peu près une cinquantaine d'années, si on avait les éléments comment détecter les franchissements de la barrière d'espèce, on aurait peut-être mieux réagi contre l'infection par VIH, et on n'aurait pas eu plus de 40 millions d'individus infectés à ce jour. Donc le deuxième point, c'est donc de mieux savoir donc si un franchissement de barrière d'espèces s'effectue, quelles sont les pathologies auxquelles il faut s'attendre chez le nouvel hôte, et puis surtout la mise au point d'outils diagnostiques, c'est-à-dire de faire une recherche prédictive, c'est-à-dire avant qu'il y ait l'émergence de la maladie, etc., avoir des outils pour la détecter le plus rapidement, pour la stopper. Alors, pourquoi le CAEV? Parce que c'est un lentivirus, et les lentivirus ont la propriété d'induire une infection persistante, lente, et d'une manière irréversible. C'est-à-dire que quand ils infectent leur hôte, il n'y a plus moyen d'arrêter l'infection. Le deuxième point, c'est que c'est un virus, un lentivirus qui est présent partout dans le monde, dans tous les troupeaux du monde. Donc il est présent d'une manière chronique. Il est responsable d'induction d'arthrite et de mammite chez les chèvres, mais il n'induit pas, contrairement au VIH qui induit le sida, le CAEV n'induit pas d'immunodéficience. Donc, il induit une réponse immune et une infection persistante, et il se réplique essentiellement dans les macrophages, contrairement à VIH, qui lui infecte les lymphocytes et tue les lymphocytes, d'où le sida. Ah. OK. Alors, donc, si on passe aux études in vitro, alors, nous avons regardé un certain nombre de cellules, incluant les cellules humaines, ici. Donc, on a examiné plusieurs types et plusieurs lignées et cellules primaires humaines, mais pour la simplicité, donc j'en ai mis uniquement les macrophages et les cellules épithéliales. On a regardé aussi les macrophages bovins et des cellules épithéliales bovines, des cellules porcines, des cellules canines, et puis des cellules félines, tout ça. Ça fait partie, donc, y compris l'homme, donc les animaux domestiques. Et puis, on s'est intéressé aussi aux ruminants de la faune sauvage, de savoir est-ce que donc, le KF peut infecter les ruminants de la faune sauvage. Alors, on a utilisé deux virus. Celui-ci, donc, qui est le virus CO, c'est un clone moléculaire. Donc, ça veut dire que le stock viral, il est homogène. Et celui-ci, c'est un virus donc, naturel qui a été isolé directement d'une chèvre. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand nombre des cellules qu'on a examinées qui sont permissives à l'infection in vitro. Donc, essentiellement, toutes les espèces de la faune sauvage, des ruminants sauvages qu'on a testées sont donc permissives, les cellules sont permissives à l'infection. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des espèces qui sont résistantes à l'infection, et parmi ces espèces, c'est l'espèce humaine et les primates. Donc, je n'ai pas mis les cellules de singes aussi qui sont là, et qui sont totalement résistantes à l'infection. Donc, heureusement pour nous, puisqu'on côtoie les chèvres depuis très 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 longtemps. Et donc, heureusement pour nous, parce que sinon, le virus serait installé chez nous. Il y a aussi donc, des espèces chez lesquelles le virus de terrain est infectieux, mais pas le clone moléculaire. On va le voir essentiellement dans cette diapositive. Et vous voyez que dans ce cas-là, on arrive à faire une infection donc, dans des cellules épithéliales bovines ou épithéliale porcine avec la souche de terrain, mais pas avec le clone moléculaire. Et tout cela, c'est parce que la souche de terrain a plus de variants que le clone moléculaire, et donc, avec ces variants, ils arrivent à avoir donc une interaction avec les récepteurs pour rentrer dans la cellule. Alors, maintenant, donc, la question qui s'était posée, c'est est-ce que les cellules qui étaient résistantes à l'infection, donc elles pouvaient répliquer le virus ou non. Alors pour cela, on a introduit le génome infectieux par transfection dans les cellules en bypassant le récepteur. Et comme vous voyez, toutes les cellules qui étaient résistantes à l'infection sont capables de produire des particules virales, y compris les cellules humaines. Alors, le dernier point concernait est-ce qu'on pouvait contourner les problèmes de récepteurs? Et pour cela, on a pseudotypé, c'est-à-dire qu'on a mis une enveloppe au KF qui est une enveloppe du virus VSV, donc qui est capable d'infecter tout type de cellules. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire, on bypass le récepteur spécifique du KF, et comme vous voyez, le virus, quand il est enveloppé avec l'enveloppe du VSV, il est capable d'infecter toutes les cellules résistantes au KF. Alors, ici, c'est juste un exemple pour vous montrer que donc, les protéines virales sont produites et elles sont maturées correctement dans les cellules des autres espèces. Alors, ceci nous a permis de conclure que le blocage, donc la résistance à l'infection, se situe uniquement au niveau de l'entrée, donc il n'y a pas de récepteur fonctionnel pour que le virus puisse entrer et accomplir son cycle. Si on bypasse donc cette étape de récepteur, le virus est capable de se répliquer, y compris dans les cellules humaines. Donc, les cellules humaines sont résistantes, y compris les cellules d'autres espèces, mais une résistance qui est fragile, parce que si le virus peut la contourner, donc par une autre membrane, il le fera, et donc on aura une infection. Alors, pour conclure sur cette partie, donc nous allons démontrer que KEV est doté d'un large tropisme d'espèces, puisque donc il était capable d'infecter un grand nombre des cellules qu'on a étudiées. Les cellules de toutes les espèces de petits ruminants ou grands ruminants sauvages donc sont permissives à l'infection. Les cellules résistantes à l'infection sont capables de répliquer le virus, c'est-à-dire que si on introduit le génome dans les cellules par transfection, on produit des particules virales. Et puis, donc, seule l'absence de récepteurs fonctionnels à la surface des cellules résistantes constitue la barrière. Si on bypasse cette barrière, donc, on produit l'infection. L'infection est productive. Et puis, donc, le pseudotypage par le VSV ou par une autre glycoprotéine pourrait donc permettre l'infection des cellules résistantes. Alors, maintenant, donc, en ce qui concerne la partie in vivo, maintenant, donc, on a vu qu'in vitro, il y avait les cellules étaient permissives. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le KEV est chez une autre espèce? Pour cela, donc, on a fait des infections expérimentales chez des moutons, chez des mouflons et des veaux. Et on a suivi l'évolution de ces infections. Alors, donc ici est récapitulé donc, le protocole suivi. Donc après infection mouton ou mouflon et les veaux. On a suivi l'évolution de la séroconversion, c'est-à-dire est-ce que les animaux deviennent séropositifs. Donc ça, c'est un signe que le virus se réplique chez ces animaux-là. Est-ce qu'on est capable de réisoler le virus quand on prend du sang de ces animaux? Est-ce que le virus est là? Est-ce que l'infection est persistante ou bien l'animal développe une réponse immune qui va stériliser cette infection? Et enfin, est-ce que l'infection induit de la pathologie? Je suis désolé, celle-ci, elle m'a échappé, elle est restée en anglais. Donc, alors, celle-ci aussi d'ailleurs. J'étais pas bien réveillé. Alors, en ce qui concerne la sérologie, donc vous voyez que les animaux, que ce soit chez les bovins, les mouflons ou moutons et les bovins, ils développent une sérologie qui évolue dans le temps. Ça veut dire qu'ils deviennent séropositifs et ils restent séropositifs durant toute la durée de l'expérience, et là, c'est plus de 2 ans pour les bovins. Et ici, je n'ai pas continué la courbe, mais c'est aussi plus de 2 ans qu'ils sont restés séropositifs. Donc, c'est un signe que l'infection, elle est productive. Alors, en ce qui concerne l'évolution de l'infection, les moutons et les mouflons ont montré une infection persistante, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait fait une prise de sang, on retrouve le virus, donc que ce soit dans les cellules, on trouve le génome, ou bien quand on les met en culture, on récupère du virus. Ça veut dire qu'il y a une infection persistante. Il y a, à partir de 18 mois, il y a induction de la pathologie typique du KEV, c'est-à-dire que les animaux commencent à avoir des gros genoux, et donc pour les femelles, on commence à avoir des mammites, et puis après, à l'autopsie, on avait vu qu'il y a des inflammations au niveau des poumons et au niveau de tous les organes cibles du KEV. Alors ça, c'était tout simplement pour récapituler la technique d'isolement du virus. Alors, en ce qui concerne maintenant les bovins, c'est totalement différent de ce qu'on avait vu chez les mouflons et chez le mouton. Donc, on a l'infection évolue selon deux phases. Il y a une première phase donc, qui est d'une à 15 semaines où on a une réplication donc, productive du virus, où on peut récupérer le virus, donc il est infectieux et réplicatif. Et puis après, donc après 15 semaines, donc à partir de la 16e semaine, on n'a plus de virus dans le sang. Et donc jusqu'à la fin de la manip, on n'a pas pu réisoler le virus. Donc le virus, il a disparu totalement. Alors maintenant, quand on a regardé à l'autopsie chez les veaux, donc on a donc fait des autopsies à 2 mois post-infection et à 6 mois post-infection, et on a regardé donc dans les organes cibles, et à 2 mois post-infection, on est capable de réisoler le virus à partir du poumon, de la rate et des ganglions, mais à partir de 6 mois, le virus il a disparu totalement. Donc ça a été une première démonstration qu'un antivirus qui s'intègre peut être éliminé donc par la réponse immunitaire. Alors pour conclure sur cette deuxième partie, je dirais que l'EKF est capable d'induire des infections donc interespèces, puisque là, on a 3 exemples, le mouton, le mouflon et les veaux. Donc, il y a une infection, le virus se réplique et on est capable de le réisoler. Donc, il a des capacités de causer des infections interespèces. L'infection est persistante et le virus se réplique continuellement dans le sang. Donc ça, c'est le signe de l'infection productive, et plus particulièrement chez les mouflons et chez les moutons. Chez le mouflon et chez le mouton, il y a des pathologies typiques du KF qui sont induites. Donc il y a des arthrites, des mammites, et il y a des lésions dans les poumons. L'infection chez les veaux est productive jusqu'à 4 mois, et puis après, elle est totalement contrôlée par le système immunitaire et le virus disparaît. Donc, chez les veaux, il n'y a pas de pathologie induite. Alors maintenant, dans la dernière partie, on a voulu savoir, est-ce que maintenant qu'on a démontré que le virus est capable d'infecter, de faire des sauts d'espèces in vitro, et in vivo après infection expérimentale, est-ce que ces franchissements de la barrière d'espèce existent dans la nature? Et donc ça, c'est c'est cette partie-là. Alors pour cela, la première chose, c'était de trouver des milieux favorables dans lesquels le KF peut franchir la barrière d'espèce. Et pour cela, nous avons, dans le cadre d'un programme du ministère de l'Environnement, avec les parcs nationaux et les LVD, donc on a les laboratoires départementaux vétérinaires, nous avons réalisé une étude de contact entre les chèvres et moutons infectés avec les animaux de la faune sauvage. Et là, c'est un exemple dans le parc des Écrins où cohabitent donc des troupeaux de chèvres infectées qui sont séropositives, qui sont connues, etc., qui sont en libre divagation, en alpage, et des colonies de bouquetins, une colonie de bouquetins, donc dans lesquelles on a trouver des animaux qui sont séropositifs, et c'est entre ces bouquetins et ces chèvres infectées, il y a parfois des interactions qui produisent des hybrides et ces hybrides. Donc, parfois, ils vivent avec les chèvres et parfois, ils repartent vivre donc en montagne avec les bouquetins. Alors, donc, on a réalisé une étude sur ces animaux-là. Là, c'est un autre site donc, dans lequel on a aussi des troupeaux de chèvres qui sont infectés et qui cohabitent ici avec, donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc avec des bouquetins qui sont de ce côté-là. Et là aussi, donc, on a des hybrides qu'on a donc achetés et qu'on a ramenés à l'école vétérinaire donc pour pouvoir faire toutes les études. Donc ici sont donc par exemple c'est un exemple de bouquetin, donc le bouquetin M, lui donc qu'on a suivi, qui est séropositif pour le KF et donc qui a des interactions privilégiées avec cette chèvre là et donc qui ont eu des hybrides ici qu'on a acheté qu'on avait ramené à l'école vétérinaire de Lyon. Et donc, on a étudié l'évolution des virus dans le troupeau de chèvres, chez les bouquetins infectés et chez les hybrides. Alors, donc, ici sont déjà les résultats pour montrer que les animaux sont bien infectés. On a recherché les génomes et vous voyez ici que donc, chez le bouquetin et les hybrides, et la chèvre, donc on a les produits PCR, donc montrant qu'il y a bien une infection. Et ça, c'est pour montrer que c'est bien spécifique. On fait une nested PCR, donc pour avoir les génomes. Alors, quand on séquence ces génomes maintenant, on les compare, on voit que, par exemple, ici, c'est la chèvre, donc les clones qui sont au-dessous d'ici à la fin sont les clones de chèvre. Et puis ici, on a les hybrides. Et ici, on a une chèvre. Et puis, on a le bouquetin. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire de cette diapositive? C'est-à-dire que c'est bien. Le bouquetin et les hybrides sont bien infectés par un KF. Parce que, donc, on arrive à aligner sans problème. Et que cette infection produit des virus qui sont génétiquement, qui commencent à diverger, puisque vous voyez les clones de la chèvre qui sont en bas, ils sont tous homogènes, avec quelques variabilités, et puis les clones des bouquetins et des hybrides, ils sont différents, avec des grandes délétions, donc affectant plusieurs nucléotides ici au milieu. Donc ça veut dire que l'adaptation chez la nouvelle espèce requiert des modifications génétiques qui sont identifiables donc, par le séquençage. Ici, c'est uniquement au niveau protéique aussi. Vous voyez qu'il y a des changements avec des délétions ici. Alors, ici, c'est résumé. Les pourcentages de substitution qu'on a trouvé entre les bouquetins et les clones moléculaires ou le KF des chèvres, du troupeau de la chèvre. Donc, ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que c'est bien un KF, c'est un antivirus qui provient de la chèvre et qui est donc qui est en train de s'adapter chez les bouquetins, puisque donc il reste dans la zone donc compatible au transfert et non à l'antivirus naturel des bouquetins. On l'a cherché pendant des années et on l'a pas trouvé. C'est l'antivirus naturel des ruminants sauvages, il y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette partie? C'est que donc, les résultats démontrent que non seulement donc, il y a des franchissements de la barrière d'espèces dans la nature, mais aussi que ces franchissements de la barrière d'espèce s'accompagnent d'adaptation du virus, donc qui va vraisemblablement génétiquement évoluer et diverger de celui du virus parental de la chèvre. Alors, donc, les conclusions principales sont que on a démontré in vitro que le virus est doté d'un large tropisme d'espèces. Les infections expérimentales ont confirmé que le virus peut causer des infections in vivo et se répliquer. Ces franchissements de la barrière d'espèces donc, sont retrouvés dans la nature. Et actuellement, nous avons des outils qui sont spécifiques de ces virus pour pouvoir les détecter et suivre donc, l'infection et les prévenir. Alors, le travail se poursuit aux États-Unis actuellement avec des virus qui sont recombinants, des virus chimériques entre KEV et HIV pour voir donc quelle serait la question, c'est si jamais un virus dans la nature se recombine avec un virus de type virus de l'immunodéficience humaine ou SIV, quel est son devenir, comment il va réagir. Et donc pour cela, nous avons construit des virus chimériques et aux États-Unis, je suis en train de les utiliser pour faire des infections expérimentales chez des chèvres et voir si la pathologie est différente. Déjà, d'ores et déjà, in vitro, donc ces virus sont différents puisqu'ils sont capables de tuer des lymphocytes alors que le KEV parental n'était pas capable de tuer les lymphocytes. Et puis, donc, les études in vivo des virus vont nous permettre de voir si les morceaux de gènes de HIV ou de SIV vont conduire à des changements du tropisme de virus. Donc, juste remercier un petit peu les gens qui ont participé à Lyon dans ce travail, donc plus particulièrement Leila Mselilakal, François Guiguen, Thierry Morin qui était donc doctorant, Arhouma qui est doctorant, donc Claudie Fornazero qui est à la retraite avec Colette Favier, et puis donc Jitka Durand qui est encore à Lyon. Je vous remercie pour votre attention.